Manger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis enchantée de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie accompagnés jusqu'à 16h par mon enthousiaste et souriante camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure c'est la vôtre, on va parler des violences sexuelles en ligne. Le cyberharcèlement sexuel, on le connaît bien dans la rue, au bureau, ces sollicitations qui virent aux insultes, aux menaces de viol parfois. Sauf que là, c'est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou Facebook. Un harcèlement encore plus violent parce qu'invisible, anonyme, sans témoin. Une violence qui parfois peut faire des dégâts encore plus considérables que dans la vraie vie. Imaginez un photomontage de vous qui circule sur Internet avec des commentaires insultants sur votre physique, ou alors des vidéos porno qui arrivent sur votre téléphone sans que vous les ayez sollicitées, ou encore des images de vous dans l'intimité publiées sur les réseaux sociaux sans votre accord par un ex qui veut se venger. Dans le cœur de cible, les femmes évidemment, les adolescentes mais aussi les adultes, des jeunes garçons parfois, les violences sexuelles en ligne, comment s'en protéger? C'est notre sujet aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, racontez-nous votre expérience, ce qui vous est arrivé et comment vous en êtes sorti ou pas. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, et pour joindre Ève Roger, appelez-nous au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1, puis il y a aussi la page Facebook de l'émission.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Camille. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Quel âge avez-vous, Camille, et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 17 ans et de Haute-Savoie, exactement.
Alors, vous avez, vous Camille, vous avez un compte sur Instagram où vous publiez des photos. Vous avez de l'influence puisque vous avez même 40 000 abonnés. Alors expliquez-nous ce que vous faites sur Instagram.
Alors, tout simplement, je partage ma vie. Je partage des photos de ce qui m'entoure, de moi-même ou par exemple de l'art que je fais, des dessins. Je partage mon style de vie aux autres.
Donc, vous faites ça depuis 2 ans?
Exactement, oui.
Alors, depuis 2 ans, vous avez du succès, puisque vous avez 40 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Mais le succès a son revers et vous recevez régulièrement des insultes ou des menaces à caractère sexuel venues d'inconnus. C'est quel type d'insultes ?
Des menaces de viol ou d'agression ou tout ce qui peut toucher au sexe globalement.
Et ça, c'est régulier ?
Non, c'est par période en soi, c'est pas vraiment régulier. Ça peut arriver plusieurs fois par mois, comme ça peut pas arriver pendant plusieurs semaines.
Et est-ce qu'il y a des photos ou des choses que vous postez qui suscitent plus de commentaires insultants que d'autres ?
Je pense que oui, sur certaines photos, je peux avoir l'air un petit peu plus sexy que la normale, surtout à mon âge, ce qui fait que ça peut attirer beaucoup plus facilement.
Je rappelle que vous avez commencé, vous aviez 15 ans, aujourd'hui vous avez 17 ans.
Voilà.
Et la première fois que c'est arrivé, vous aviez quel âge et comment vous avez réagi ?
J'avais 15 ans la première fois que c'est arrivé et ça m'a choquée, ça m'a pris à cœur parce que c'est pas rien, c'était assez violent pour mon âge. Du coup, j'ai été vachement choquée, ça m'a assez torturé l'esprit.
Qu'est-ce que vous vous disiez quand vous disiez ça m'a torturé l'esprit ? Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là ?
C'est assez compliqué à expliquer, mais... Sûrement, on se remet en question, on se demande pourquoi on reçoit ça, pourquoi nous, et l'intention qu'il y a derrière, on se pose des questions.
Parce que c'est toujours des personnes que vous ne connaissez pas, qui se cachent derrière des pseudos.
Oui, c'est exactement ça, je ne connais pas la personne, généralement c'est des comptes faux qui sont faits exactement pour envoyer ce genre de photos ou de messages.
Alors justement, vous parlez de photos parce que vous, non seulement vous recevez des insultes et des menaces, mais aussi des photos et même des vidéos à caractère sexuel. C'est-à-dire, soyons clairs, c'est des photos pornographiques.
Voilà, exactement. C'est des photos de tout ce qui rapporte au sexe. Je peux avoir des vidéos de personnes se touchant ou n'importe quoi d'autre en faisant des choses à rapport sexuel.
Et que des hommes ?
Exactement, oui, j'ai eu que des hommes.
Et depuis donc ça fait 2 ans, ça, est-ce qu'on finit par s'habituer ? Comment vous réagissez aujourd'hui avec 2 ans d'expérience ?
Je pense pas qu'on peut s'habituer à ce genre de choses parce que c'est pas avec consentement. Mais à force, on s'habitue, ça choque moins. Ça, pas que ça devient une habitude dans la vie, mais ça choque moins la personne, on se pose moins de questions et on se dit c'est pas la première fois, c'est pas la dernière sûrement, donc on passe au-dessus au bout d'un moment.
Et est-ce que vous avez réussi au début à en parler autour de vous ?
Oui, j'ai réussi à en parler à pas mal d'amis, à ma famille aussi, qui m'ont vachement soutenue par rapport à ça.
Qu'est-ce qui vous faisait du bien d'entendre ?
Bah, de me dire que de toute façon je connaissais pas la personne et que c'était caché derrière des réseaux sociaux. Souvent c'est peut-être des photos qui peuvent sortir d'internet, on sait pas réellement. Et ça peut être aussi des blagues et aussi le fait d'être accompagnée et qu'on me dise c'est pas grand chose, c'est pas grave, te focalise pas là-dessus, ça aide vachement à passer au-dessus.
Et pourtant ça a quand même un peu perturbé votre vie amoureuse, non?
Oui, ça m'a créé un blocage tout de même au niveau des hommes, où j'avais du mal à faire confiance aux autres.
C'est-à-dire que vous vous méfiez de tous les hommes autour de vous parce que vous receviez comme ça des messages insultants?
Oui, parce que je me disais peut-être que ça pouvait être quelqu'un que je connaissais. Ah. Je connaissais pas la personne derrière, ni l'âge. Du coup, je me disais ça peut venir de n'importe qui. Tous les hommes pourraient être ainsi. Malheureusement, j'ai fait une généralité dans ma tête. Et ce qui fait que j'ai eu un gros blocage, j'arrivais plus trop à m'approcher des hommes ou de parler à quiconque.
Ah oui, ça c'est quand même une conséquence qui est grave pour vous. Et aujourd'hui, vous avez réussi à passer par-dessus, comment vous faites ?
Aujourd'hui, oui, j'ai réussi un peu à me débloquer. Certes, ça, encore dans ma vie, je peux avoir certains blocages par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai pris du recul sur cette situation et je me suis dit que pas tout le monde est ainsi et que... pas tout le monde peut faire des choses pareilles.
Mais alors ce qui est étonnant, Camille, c'est vrai qu'on se demande pourquoi vous avez continué finalement. Pourquoi vous n'avez pas soit mis votre compte en privé, c'est-à-dire choisi les abonnés et puis réservé vos publications à des connaissances, à vos proches. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement arrêté de poster des choses sur les réseaux sociaux?
Alors tout simplement, je me suis pas mise en privé ou j'ai pas arrêté simplement pour me dire que c'est pas à moi de faire attention à ça. Mais plutôt à eux d'arrêter, j'ai pas à restreindre ma vie pour des personnes comme ça. Je dois continuer ce que je fais et ce qui me plaît. Et plutôt faire de la prévention là-dessus pour essayer de calmer, voire arrêter les choses.
Et c'est très courageux de votre part. Alors est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose, de porter plainte, d'essayer d'empêcher, de bloquer ces images, ces insultes?
J'en parle régulièrement sur les réseaux sociaux pour... mettre ce sujet à la vue de tout le monde. J'essaye d'en parler, de prendre des témoignages, de dire par exemple aux adolescentes plus jeunes que moi de faire attention. J'ai essayé de porter plainte aussi, mais sans preuve, ça vient pas totalement à bout. Je garde pas les photos pour moi parce que ça me dérange. Mais ouais, j'essaye de parler, de mettre en avant ce sujet sur les réseaux sociaux.
Faire de la prévention auprès des plus jeunes, en tout cas. Merci vraiment beaucoup, Camille, pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Eurydice et elle va nous raconter comment elle a été confrontée aux violences sexuelles sur les sites de rencontres.
Europe 1. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1. Pour la joindre et raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous appeler au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Et puis vous aussi, vous pouvez nous laisser un petit message sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 sur Twitter, il y a aussi la page Facebook de l'émission. Comment se protéger des violences sexuelles en ligne ? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h sur Europe 1. Et pour joindre Ève Roger, 3921, on vous attend.
Nous sommes maintenant en ligne avec Eurydice. Bonjour Eurydice, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Quel âge avez-vous Eurydice et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 30 ans et j'appelle de Paris.
Alors vous Eurydice, vous allez régulièrement sur un site de rencontre qui s'appelle Tinder, qu'on connaît bien. Parfois, les hommes ont de drôles de comportements. Vous en avez même identifié deux profils différents.
Oui, en fait, il y a le profil assez classique, donc on match, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais.
C'est un peu, bon bonjour, ça va, très poli, au bout d'un moment, on échange les numéros. Et là, un autre visage apparaît. Et en général, après une phrase d'introduction via WhatsApp, parce qu'en général, c'est souvent sur cette plateforme qu'on discute, j'ai le droit à la fameuse qu'on appelle la dick pic.
La dick pic, hein, ça veut dire la photo de sexe, hein, parlons.
Ça, en direction ou alors des positions assez incongrues, ouais. Alors qu'on a demandé, qu'on n'a rien vu arriver. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Donc, soit je bloque immédiatement, soit je me retrouve un peu stupéfaite, j'essaie de stopper et ça continue en disant « mais sur ce site, c'est comme ça que ça se passe ».
Ça, c'est ce que disent les hommes. Ils disent « tu sais ce que tu es venu chercher, donc ne sois pas étonnée », c'est ça l'argument.
C'est qu'à partir du moment où on est sur Tinder, on n'est pas là pour du sérieux, donc on peut aller droit au but.
Mmh.
de manière pas très subtile. Sinon, il y en a qui, eux, par exemple, dès le début, annoncent la couleur en donnant des... Enfin, faisant des phrases assez sympathiques, c'est-à-dire bonjour, bonjour, est-ce que je peux mettre ma main entre tes cuisses, enfin, des choses extrêmement désagréables. Mm-hmm. Donc oui, c'est un peu les deux profils, c'est soit de but en blanc tout de suite, les phrases grossières, les allusions, ou alors de manière plus discrète via l'échange de numéros.
Mais vous diriez que c'est la majorité des hommes sur Tinder qui font ça, ou c'est une minorité au contraire ?
C'est une minorité, mais qui est assez active, je pense.
C'est-à-dire que ça arrive régulièrement ?
Si on est régulièrement sur l'application, oui, ben ça doit être 10%, je pense. Mmh.
10%, vous diriez ? Et je crois qu'un homme vous a même envoyé une vidéo, carrément.
Oui. Mais alors lui, par contre, on avait discuté plusieurs jours et il y avait eu des moments où les conversations étaient un petit peu... ça avait légèrement glissé, mais ça restait correct. Et de côté, et à un moment donné, je vois une vidéo et je m'attendais à voir son visage et il était en train de se masturber.
Ah, alors, comment vous réagissez ? Comment vous avez réagi ? Parce qu'on a entendu Camille, elle a 17 ans, elle était très jeune, mais vous êtes un peu plus expérimentée. Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, quand vous recevez ces agressions sexuelles, d'une forme ?
Ben, c'est toujours, mais quel que soit l'âge, assez choquant. C'est-à-dire qu'on est vraiment surpris, bloqué, on est juste choqué. Je ne sais pas quoi faire, on m'a dit qu'il fallait que je porte plainte, mais je n'ai même pas pensé. J'étais tellement... il y avait quand même un rapport de confiance, ça faisait plusieurs jours qu'on discutait, on était prévu qu'on se voit. Et là, vraiment, je me suis sentie agressée, je ne savais pas quoi faire, je n'ai même pas réagi. Je crois que j'ai continué à discuter encore quelques heures avant de couper. Et j'étais tellement perturbée, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça ? Et pour lui, ça allait de soi.
Et dites-moi justement, est-ce que vous avez essayé de comprendre, de parler avec ces hommes de pourquoi ils font ça ? Comment ils peuvent s'imaginer que ça peut séduire une femme ?
Je crois que j'en avais parlé avec un d'entre eux qui m'avait dit non, mais c'est juste quelque chose d'excitant, ça fait partie de la discussion des préliminaires, c'est pour se donner envie. Et je trouvais ça, mais je me disais, mais il vaut mieux se voir en vrai. Il dit non, mais si, moi je trouve ça bien, c'est une manière d'attirer l'autre. Un peu particulier.
Et vous avez pu lui dire que non ?
Bah, je lui ai dit non, mais il l'a pas trop compris. Il m'a dit que j'étais prude, que je comprenais, enfin que après tout c'était normal sur les applications d'avoir ce genre de conversation,
de recevoir des photos de sexe masculin, voilà. Que c'était pas forcément ça la meilleure façon de séduire une femme.
Oui, c'est ce que j'ai dit, mais il disait que c'était une forme de séduction, qu'il fallait pas être choqué, que c'était le 21e siècle.
Et justement, donc ça vous choque, on vous comprend, ça vous dégoûte, on vous comprend. Est-ce que vous le vivez comme une sorte de violence sexuelle ? Moi, ça me fait penser, c'est comme si un homme dans la rue avec qui vous discutez, qui ouvre tout d'un coup sa braguette.
Là, c'est ce que j'avais un peu essayé d'expliquer en disant que si on s'était croisé dans un bar, je pense pas qu'il aurait baissé son pantalon.
C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il vous a répondu ?
Ah, mais il a commencé à dire ah oui, en effet, il m'a dit c'est peut-être parce que comme il y a des écrans, il y a moins de filtres, que c'est un peu entré dans les mœurs avec Snapchat, les news, que c'était un peu à part. Mais il a un peu réfléchi, mais pas l'impression. Et une épiphanie, là.
Dites-moi, pour terminer, je voulais vous demander, est-ce que vous avez rencontré, rassurez-nous, peut-être des hommes plus délicats sur les sites de rencontres ?
Ah oui, j'ai quand même ça à dire que ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes très charmants. J'en ai rencontré un avec qui je suis restée plusieurs années. Tout est possible. Ce qu'il faut, c'est vraiment rester vigilant. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu des codes. Dès qu'il y a des conversations qui glissent un peu, genre le soir, en disant « est-ce que tu es habillée dans ton lit ?» On se doute de comment ça va finir. Donc, à nous de savoir si c'est ce qu'on a envie ou pas.
Ouais. Vous prenez aujourd'hui des précautions avec les sites de rencontres, justement. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils à d'autres auditeurs, auditrices qui nous écouteraient ?
Rester assez vague sur ce qu'on fait, sur où on vit exactement avant de rencontrer la personne, parce que je suis tombée sur quelqu'un récemment qui était extrêmement bizarre, c'est-à-dire qu'il m'espionnait via l'application parce qu'il y a de la géolocalisation.
Ah oui.
Faut rester assez vague, en tout cas tant qu'on n'a pas vu la personne, donner des informations générales, pas donner trop d'adresses précises, on ne sait jamais. Et puis, aller au feeling, si on sent que la conversation nous met mal à l'aise à un moment donné, il vaut mieux arrêter.
En tout cas, un homme qui envoie une photo de son sexe, on le coupe tout de suite, la conversation. Merci beaucoup, Eurydice, de nous avoir fait partager votre expérience. Nous serons dans quelques instants avec Clémence Pageot, la directrice du centre Hubertine Auclair pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Île-de-France.
Europe 1. Et vous pouvez vous aussi réagir sur les réseaux sociaux ou au 3921, comme l'a fait Karim, qui nous dit que les hommes aussi peuvent parfois faire l'objet d'agressions sexuelles sexuelle sur Internet. Et il ajoute « Je me suis retrouvée dans ce cas de figure et je comprends mieux ce que vivent les femmes. » 39-21, on vous attend 50 centimes d'euros la minute. Vous nous laissez un petit message et si vous êtes sélectionné, eh bien, on vous rappelle. Partageons nos expériences de vie se poursuit jusqu'à 16h. Nous sommes avec Ève Roger jusqu'à 16h. On parle aujourd'hui des violences sexuelles sur Internet. 39-21.
Je me tourne maintenant vers vous, Clémence Pajot. Vous êtes directrice du Centre Hubertine Auclert pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Ile-de-France. Merci d'être avec nous cet après-midi. On a vu au début de cette émission que les violences sexuelles en ligne prennent des formes multiples. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène ?
Alors, on a mené deux études qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent justement d'éclairer ces nouveaux phénomènes que tout le monde connaît, mais qu'on avait du mal à la fois à définir, à qualifier et à mesurer. On a mené une étude notamment auprès des adolescentes et des adolescents de 12 à 15 ans qui montre qu'effectivement, c'est un phénomène massif qui touche 3 filles et 2 garçons par classe.
Ah oui, c'est des garçons aussi.
Les garçons aussi. Alors, les filles sont plus fréquemment victimes de ces violences-là, mais les garçons aussi. Et ce n'est pas les mêmes attentes finalement qui sont formulées vis-à-vis des filles et des garçons, puisqu'on voit que les garçons, en général, c'est les normes en fait, de virilité lorsqu'ils ne sont pas dans ces normes dominantes de virilité, ils peuvent être renvoyés justement leur féminité ou un soupçon d'homosexualité. C'est vraiment là-dessus qu'ils peuvent être harcelés. Alors que pour les filles, c'est davantage le contrôle de leur sexualité et de leur apparence physique.
Donc, comme on l'a entendu tout à l'heure avec Camille, c'est des jeunes gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui postent des photos, et c'est là où ils reçoivent des commentaires ou des vidéos.
Il faut savoir que tous les jeunes aujourd'hui s'expriment, et il y a des attentes très fortes. Hein, pour être populaire aujourd'hui, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être suivi par un grand nombre de personnes. C'est vraiment un gage de popularité. Mais ce qui est très compliqué, c'est que on attend des filles et des garçons de se valoriser sur ces réseaux sociaux à travers la publication de photos notamment. Et se mettre en valeur pour une fille, c'est plus compliqué que pour un garçon parce qu'on va lui demander à la fois d'être belle, de sexy, mais pas trop. Et la frontière entre le pas assez et pas trop est extrêmement ténue. Donc soit elle va être insultée, moquée, humiliée parce que son apparence physique sera pas dans la norme attendue, soit au contraire, on va penser qu'elle se met trop en valeur et l'insulter, l'humilier en lui reprochant finalement sa sexualité. Donc c'est extrêmement compliqué pour les jeunes filles d'arriver à se trouver sur la frontière et c'est finalement des normes extrêmement puissantes qui s'imposent aux jeunes aujourd'hui dans leur manière de s'exprimer, de se mettre en valeur sur ces réseaux sociaux.
Et est-ce qu'on a une idée du profil de ces hommes qui se cachent derrière des pseudos pour justement pratiquer ces violences sexuelles en ligne, ces insultes, ces menaces ?
Ce que révèle notre étude, c'est que finalement, d'abord, ces violences sexuelles, elles existent dans l'établissement scolaire. C'est-à-dire que les jeunes qu'on a interrogés ont déclaré pour 30% d'entre eux avoir déjà été victimes d'agressions ou de violences sexuelles dans l'établissement scolaire depuis le début de l'année. C'est extrêmement important.
Donc dans la vraie vie ?
Dans la vie réelle. Alors, nous, on considère que sur les réseaux sociaux, c'est aussi la vraie réelle.
D'accord.
Donc on va dire en présentiel.
D'accord.
C'est un peu un jargon, mais en présence. L'étude montre que finalement, les agresseurs sont multiples. C'est aussi bien des filles que des garçons qui postent, moquent, insultent. Oui. Alors, les victimes, on a réussi aussi à mieux définir qui elles étaient. Hein. On sait que, par exemple, 20% des filles ont été victimes d'insultes sur leur apparence physique, pour seulement 13% des garçons. On sait qu'une fille sur 8 a été victime de rumeurs la concernant deux fois plus que les garçons.
Donc, sur des rumeurs sur son comportement sexuel, par exemple.
Oui, en général, c'est sur le comportement sexuel, exactement. Et les filles qui sont victimes peuvent être tour à tour aussi agresseuses. C'est-à-dire que c'est un phénomène extrêmement massif.
Et si on quitte l'univers des adolescents, du collège, on voit aussi que des femmes, on l'a entendu là sur les sites de rencontres. Ça, est-ce que vous avez aussi étudié ce phénomène-là ?
Alors, on a mené une étude l'année dernière sur les cyberviolences conjugales.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a analysé chez les femmes victimes de violences conjugales quelle était l'ampleur des cyberviolences, c'est-à-dire des violences exercées via les réseaux sociaux ou les outils numériques. 90% des femmes victimes de violences conjugales, donc de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, sont victimes de cyberviolences. Ça veut dire que les outils numériques sont utilisés de manière massive pour contrôler, harceler, humilier les femmes.
C'est la continuation des violences conjugales sur les réseaux sociaux.
Et c'est la continuation finalement des violences sexuelles. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est l'utilisation... il y a des nouvelles formes de violences sexuelles qui maintenant se développent grâce aux outils numériques et Internet. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas diffuser massivement une photo à caractère intime sans le consentement de la personne. Ce n'était pas possible. Les outils numériques, aujourd'hui, le permettent. Et c'est vrai que c'est des violences qui sont décuplées. C'est-à-dire ce que nous disent les victimes, qui sont victimes de violences aussi dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on peut être harcelé dans son établissement scolaire, on peut être victime de violences conjugales, mais les outils numériques déploient
démultiplient.
Et démultiplient ces violences.
Ces violences. Mais justement, je voulais parler de cet
isolement aussi.
Cette jeune femme en Espagne de 32 ans qui s'est suicidée par la suite d'une diffusion d'une vidéo intime d'elle-même sur le réseau WhatsApp de son entreprise. Et cette vidéo avait 5 ans, donc c'est un ex qui se vengeait. Ça, c'est ce qu'on appelle le revenge porn.
C'est ça.
Est-ce que vous avez des éléments sur le revenge porn?
Plusieurs choses. D'abord, c'est des phénomènes qu'on observe dès l'adolescence. Les élèves nous ont expliqué comment les garçons composent des dossiers, c'est-à-dire demandent à leur amoureuse, leur copine, de leur envoyer des photos intimes. C'est un phénomène assez massif, ça fait partie de la relation amoureuse, on échange des photos, ça fait partie de la séduction. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ces photos, elles sont utilisées comme des dossiers. D'ailleurs, les jeunes l'expriment comme ça. Hein. Parfois, on a des filles qui ont témoigné en disant « j'ai envoyé une photo parce qu'il me l'a demandé, il m'a dit que tout le monde le faisait, et puis là, il m'a répondu « maintenant, j'ai un dossier sur toi ». Et c'est vrai que ces photos, elles sont parfois utilisées après la séparation pour faire chanter les filles, les menacer, ou carrément les humilier quand elles sont réellement diffusées.
C'est humilier, chantage aussi à l'argent, par exemple ?
Pas forcément à l'argent, c'est surtout des menaces, du chantage. C'est vrai que c'est extrêmement violent pour les filles de savoir que cette menace pèse sur elles, et ça peut les amener à changer d'établissement scolaire, mais aussi, on l'a vu encore récemment en France, à se suicider. Donc c'est extrêmement grave et ça doit être pris au sérieux.
Et justement, comment les jeunes filles, elles acceptent facilement de faire ces vidéos, elles sont un peu sur l'emprise de ce que disent les garçons, en disant ça se fait, il faut le faire.
Ça fait partie du jeu amoureux. Ouais. C'est vrai que ça fait partie maintenant. C'est un phénomène qui s'est généralisé, donc c'est compliqué aussi de refuser. Ça fait partie de la séduction aussi, donc on peut pas les en blâmer. Les garçons aussi envoient des photos intimes d'eux. On l'a vu parfois dans les témoignages, même s'il y a pas de relation amoureuse encore, et ils ont absolument aucun problème à envoyer des photos de leur.
Ils en sont plutôt fiers, non ?
Oui, c'est ça. Mais ce qui est important d'analyser, c'est la manière dont la société le reçoit. C'est-à-dire que la photo d'une fille dénudée est diffusée, elle est stigmatisée, humiliée, insultée. Un garçon peut envoyer la photo de son pénis à une femme qu'il ne connaît même pas, sans se poser la question de la manière dont ça va être perçu. C'est forcément valorisant.
Restez avec nous, Clémence Pajot. Je rappelle que vous êtes la directrice du centre Hubertine Auclert pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Île-de-France. Dans quelques instants, nous allons accueillir Mélanie, qui n'arrive pas à porter plainte contre son ex.
Europe 1. Et si vous souhaitez réagir vous aussi et partager votre expérience, appelez-nous au 3921 ou encore réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 sur Twitter. La page Facebook de l'émission est aussi à votre disposition. 41% des conducteurs effectuent eux-mêmes le contrôle de la voiture avant de prendre la route. Mais si vous n'y connaissez rien en mécanique, un ami ou votre garagiste saura vérifier pour vous les niveaux ou l'état des pneus. Retrouvez les résultats de l'étude exclusive MMA, les Français et le départ en vacances, ainsi que d'autres conseils pratiques pour prendre plus sereinement la route des vacances sur zerotraca.mma.
Procrastiner. Vous connaissez ?
Procrastiner ? Non.
C'est toujours reporter au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même.
Et c'est grave ?
Oui, parce que finalement, à force de repousser, on finit par ne pas faire les choses.
Mais moi, je procrastine quand je repousse ma perte de poids.
Tout à fait. Et en plus, vous savez comment perdre du poids ?
Bien sûr, avec Comme J'aime.
Alors lancez-vous aujourd'hui.
Avec Comme J'aime, perdez vos kilos en trop. En plus, la première semaine est gratuite. Appelez le 0809 101 101. 0809 101 101. Commej'aime.fr. Détails de gratuité, de paiement et de remboursement des offres par téléphone. Service gratuit plus prix d'un appel.
15h28, partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h avec vous, Ève Roger. Il est question aujourd'hui des violences sexuelles en ligne. Comment s'en protéger ? On attend vos témoignages au 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Nous sommes en ligne maintenant avec Mélanie. Bonjour Mélanie.
Oui, bonjour.
Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Mélanie. Alors vous avez rencontré votre conjoint sur Internet, ça a été un coup de foudre. Et peu à peu, par amour, vous l'avez suivi dans des soirées libertines. Le problème, c'est qu'il prenait des photos et filmait ses soirées. Est-ce que vous étiez inquiète à l'époque ?
À l'époque, non. C'était des demandes de sa part, chose que je faisais.
Et au final, je me suis aperçue que il utilisait ses photos sur des sites, hein, des sites de rencontres et tout ce qui s'ensuit, hein, à mon insu. Moi, j'étais un peu surprise. Mais à l'époque, bon, on était ensemble. Je l'ai laissé, faire entre guillemets.
Même alors que vous étiez ensemble, il utilisait ces images.
Ah oui, il utilisait ces images. Moi, je ne sais rien dire au vu de ma situation qui était assez catastrophique, ma relation avec lui. Après, je me suis séparée de lui et je me suis aperçue, j'ai reçu de nombreux témoignages comme quoi elle avait conservé ses photos sur son téléphone et qui les faisait montrer à n'importe qui, quoi, à des connaissances, à des amis à lui, à ses compagnes de l'époque, enfin où il est en ce moment. Vraiment, j'ai appris qui faisait tourner ses vidéos. Moi, j'ai voulu aller déposer plainte en gendarmerie, donc j'ai été. Ils ont refusé de prendre ma plainte en disant comme quoi il avait aucune diffusion d'images sur des réseaux sociaux ou autres.
C'est juste parce qu'il disait il ne fait que les montrer, donc on peut pas le poursuivre pour ça.
Voilà, c'est ça. Alors que quand même, c'est ce que je dis. Enfin, je suis victime et j'étais victime. Aujourd'hui, je ressens de l'humiliation quand même où il continue à faire montrer ses photos sans me demander qui moi. Je demande qu'à ce qu'il supprime ses photos, qu'il arrête tout ça. Mais il continue de le faire complètement à mon insu.
Ah oui, et donc vous êtes rapproché d'une association et est-ce que vous avez l'espoir de pouvoir faire supprimer ces photos, ces vidéos ?
Moi, je vous dis, j'étais en gendarmerie, j'ai demandé de déposer plainte pour du revenge porn. Hein. Ils m'ont dit non, ça n'existe déjà, ils ne connaissaient pas du tout ce mot.
Ah oui.
Ils m'ont dit non, c'est un mot en anglais, ça n'existe pas. Donc j'ai sorti mon téléphone et leur faire montrer la définition et la nouvelle loi qui est sortie. Hein. Mais ils m'ont dit, mais de toute façon, il n'y a pas eu de diffusion d'images sur les réseaux sociaux. Donc, il y aura pas, la plainte ne peut pas se faire. Donc, je n'ai pu déposer plainte. J'ai fait qu'un témoignage suite à une plainte d'une des victimes de cet homme, mais moi, je n'ai pas pu déposer plainte.
Alors, comment vous envisagez l'avenir ? Qu'est-ce que vous espérez ?
Alors, j'envisage où je suis entendue, qu'on puisse prendre ma plainte. On m'a dirigée vers un site où je peux faire un signalement comme quoi ma plainte n'a pas été prise, elle a été refusée. C'est ce que je dis, moi, à l'heure d'aujourd'hui, qui ne prouve pas qu'il ne les a pas discutés sur Messenger, sur réseaux sociaux, sur des sites, n'importe quel site, quoi. Moi, je suis au courant de rien. Il a toutes les photos en sa possession.
Et dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous-même, ces photos de vous qui circulent entre des mains que vous ne connaissez même pas, peut-être ?
Je me sens humiliée, je suis aussi en colère, je suis triste, je ressens différents sentiments. C'est des photos qui m'appartiennent, je ne vois pas pourquoi, quel est le but de faire montrer et de blesser comme ça une personne avec qui on a partagé sa vie. Je trouve ça odieux, c'est cruel parce que moi je me sens vraiment humiliée, vraiment. C'est mon corps.
Je vais donner très très rapidement la parole à notre experte Clémence Pajot. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose à Mélanie sur ces possibilités ?
Oui, clairement, le fait de détenir des photos à caractère intime sans le consentement, c'est puni par la loi. Donc vous avez raison d'insister auprès de la gendarmerie. C'est un délit d'atteinte à la vie privée et ça peut être condamné. Maintenant, il faut que derrière, effectivement, il y ait une enquête qui soit menée. Il faut que
la gendarmerie accepte de prendre la plainte.
Mais vous devez effectivement aller soit vers le procureur de la République, soit Pharos pour aller.
Pharos.
Vous avez raison, hein, pour signaler ces abus. Et il y a une question qui est extrêmement importante aussi, c'est celle du signalement sur les réseaux sociaux. Une fois que quand c'est diffusé, c'est important que les réseaux sociaux soient réactifs et que les plateformes du numérique prennent en compte aussi.
Le problème ici de Mélanie, c'est que justement, on n'a pas trouvé ces photos et ces vidéos sur les réseaux sociaux. C'est ça circule de main en main.
C'est à la gendarmerie de faire son travail d'enquête.
Je vous remercie mille fois, Mélanie, pour votre témoignage. Merci beaucoup aussi, Clémence Pajot, directrice du Centre Hubertine Auclair pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Île-de-France. Merci mille fois, Mélanie, pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons avec Eva. Elle nous racontera comment un ex a pourri sa vie en diffusant sur Facebook une vidéo intime qu'elle avait tournée pour lui.
Europe 1. Nadia nous a laissé un petit message sur les réseaux sociaux ou au 3921 pour nous dire « Écoutez, moi c'est bien simple, j'ai la solution, j'ai tout arrêté et depuis, je revis ». Vous aussi, n'hésitez pas à laisser un message, hashtag Europe 1 sur Twitter. Vous écoutez Ève Roger jusqu'à 16h, partageons nos expériences de vie. On parle des agressions sexuelles en ligne cet après-midi. Comment s'en protéger ?
Et nous accueillons maintenant Eva. Bonjour Eva, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 23 ans et j'appelle de Lyon.
Alors vous aviez 17 ans quand vous avez rencontré un garçon de 21 ans sur Internet via un jeu vidéo. Tout a bien commencé, vous étiez amoureuse, vous aviez une relation harmonieuse, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout se passait très bien. J'étais très très amoureuse de lui, parce que c'était un peu mon premier, ouais. Ma première relation amoureuse, à vrai dire.
Mmh. Et puis un jour, vous avez tourné une vidéo intime à sa demande. Alors, je crois que vous n'aviez pas trop envie, mais vous l'avez fait pour lui faire plaisir.
Oui, c'est ça. En fait, il me demandait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines de lui faire ça, en me faisant une sorte de chantage affectif, comme quoi si jamais je le faisais pas, c'est que je lui faisais pas confiance, et qu'un couple était basé sur la confiance, donc évidemment, qu'il allait me quitter si jamais je lui envoyais pas cette vidéo-là. Oui.
Donc vous aviez conscience que c'était peut-être dangereux, mais vous étiez un peu entre deux feux, quoi.
Oui, c'est ça. C'est vrai que je savais, parce qu'il y avait quand même un peu de prévention à l'époque, mais si ça date un peu maintenant. Mais je me disais, oui, je veux pas le perdre parce que c'est un peu la seule personne qui s'intéresse à moi. Donc c'est vrai que j'étais un peu perturbée par tout ça. Et il m'a bien retourné le cerveau, on va dire, pour que je change mes convictions, quoi, qui à la base...
Et vous disiez pourquoi il voulait cette vidéo de vous, dans une position intime ?
Il me disait que c'était pour lui faire plaisir, parce que comme on était à distance, c'était compliqué, même si on s'était vu quelques fois et qu'on avait déjà eu des relations sexuelles ensemble. Hein. Ouais. Mais c'était difficile pour lui, tout ça. Et puis c'était aussi surtout une façon de lui montrer ma confiance.
Ouais. Donc vous avez cédé et puis après vous avez rompu et un jour, sans vous êtes rendu compte que la vidéo tournait dans son cercle d'amis. Et comment vous l'avez su ça ?
En fait, je l'ai vu sur Facebook, sur un groupe privé du jeu sur lequel on s'était rencontrés. Ouais. Donc, la vidéo, elle a été postée dessus par des amis à lui, parce que je m'étais disputée avec un de ses amis. Mmh. Évidemment, il l'avait partagé à tous ses amis, quoi, parce que regardez mon trophée, hein, un petit peu, c'était un petit peu ça. Et donc, je l'ai vu sur Facebook un soir, un ami m'a appelé en me disant « T'as vu sur le groupe ce qu'ils ont posté, machin, machin ?» Et j'ai directement signalé la vidéo à Facebook, qu'il a retirée au bout de... d'une dizaine ou une quinzaine de minutes, je pense que ça a été assez rapide parce qu'on a été nombreux à la signaler.
D'accord.
Mais le mal était déjà fait, quoi. Il y avait quasiment tous les membres du groupe parce que c'était très réactif à l'époque. On était énormément sur les réseaux sociaux, on était jeunes, donc voilà, c'était un peu notre vie. Tout le monde l'avait quasiment vu, quoi.
Et comment, quelles conséquences ça a eu ? C'est-à-dire que vous avez, vous avez été insulté parce que à cause de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence à la fois dans le groupe et sur vous-même ?
Au niveau du cercle d'amis que j'avais en ligne, ça a eu des conséquences hyper importantes. C'est-à-dire que j'ai perdu pas mal d'amis, entre guillemets, même si c'était que des amis sur le jeu. Ils étaient très importants pour moi, vu que c'était un peu les seuls que j'avais. Et je me suis fait insulter tous les noms, et surtout qu'en plus, il y a eu quelque chose de très grave, c'est qu'il y a eu une sorte de vente de cette vidéo contre de l'argent en jeu, en fait.
C'est-à-dire il a monétisé en monnaie virtuelle cette vidéo.
Mais c'est ça.
Et vous, est-ce que vous, au fond de vous, c'est quoi les sentiments que vous éprouviez ? C'était plutôt de la colère ou une forme d'abattement ou d'humiliation ? C'était quoi qui prédominait ?
Je pense que je suis passée par énormément d'étapes. Au début, j'étais juste... j'avais peur. J'avais très très peur que ça se sache dans ma vraie vie. C'est-à-dire que mes parents, mon père soient au courant.
Ouais.
Ça aurait été catastrophique. Et puis j'avais aussi, parce qu'ils avaient mon numéro de téléphone, des fois ils appelaient même à ma maison sur mon fixe.
Il y avait votre numéro de téléphone dans la vidéo ?
Alors pas dans la vidéo, mais eux l'avaient. Je sais pas comment ils l'ont eu. Je l'avais jamais donné. Et en fait, je sais pas où ils l'ont trouvé. Peut-être sur internet. Et des fois ils appelaient pour me menacer en mode si tu fais pas ça, si t'arrêtes pas faut que tu te taises et tout, n'en parle pas au modérateur du jeu, parce qu'évidemment, il y avait des gens qui vérifiaient un peu ce qui se passait sur ce jeu. Mais si j'allais leur en parler, ils allaient se faire fermer leur compte, en fait. Et d'accord. Ça, ils ne le voulaient pas. Ouais. Et donc, ils me menaçaient un peu comme ça. Sauf que j'ai réussi, au final, à rentrer dans l'équipe de modération. de ce jeu-là et ils ont été sanctionnés, bien évidemment.
Voilà, c'était ça la question que je voulais vous poser. Vous avez réussi à faire enlever la vidéo très vite, finalement, en 10-15 minutes. Enfin, c'est toujours une oui. éternité, j'imagine, pour vous. Et vous avez réussi vous n'avez pas porté plainte, mais quand même, ils ont été sanctionnés.
C'est ça. J'ai quand même eu mon petit gain de cause, en ligne. C'est-à-dire que, nous, à l'époque, c'était un peu toutes nos vies, nos comptes sur ce jeu-là. On y avait passé des heures, et de les voir se faire sanctionner, fermer leur compte, c'était quand même
une victoire.
Une revanche, quoi, une victoire. Et c'est vrai que, à l'époque, je regrette de ne pas avoir porté plainte.
Mais sur l'auteur même, votre ancien petit ami, là, vous n'avez pas pu avoir le piéger à son tour, en tout cas avoir une revanche sur lui?
Non, j'ai jamais rien eu. J'ai jamais rien pu faire. À part ça, j'aurais dû porter plainte, mais je voulais vraiment pas que mon père soit au courant. Je voulais pas lui faire de la peine.
Vous êtes arrêtée là. Pour terminer, Eva, dites-moi, je crois que vous avez une petite sœur. Quel conseil vous lui donnez justement pour que ça ne lui arrive pas?
Justement, je lui ai parlé de toute cette histoire. Je lui ai expliqué. Mon histoire. Elle a 4 ans de moins que moi et elle a bien compris. Après, elle, pour l'instant, elle n'a pas trop de relations, donc ça se passe bien. Et je pense que si maintenant on fait énormément plus de prévention à ce sujet-là, je lui en ai parlé plusieurs fois, et pour que ça ne lui arrive pas. Quoi.
Donc, en tout cas, cette émission en fait partie, et je vous remercie 1000 fois aussi d'avoir partagé cette expérience, Eva, parce que ça va sans doute aider beaucoup de jeunes filles dans quelques instants. Donc merci, et puis dans quelques instants, nous allons retrouver Alexia. Elle aussi a été piégée, mais cette fois par une photo.
Expérience de vie tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 et on va continuer de parler des violences sexuelles en ligne. C'est le sujet de l'émission qui arrive à son terme. On va prendre un dernier témoignage, Eve Roger.
Nous sommes maintenant en ligne avec Alexia. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 21 ans et je vous appelle de l'étranger.
Alors vous, Alexia, un peu comme Eva, vous avez été piégée par une photo lors d'une soirée. Je rappelle les faits, vous aviez 17 ans, petit copain, vous vous êtes isolés tous les deux dans une pièce pour faire l'amour et des jeunes ont fait irruption dans cette pièce, un portable à la main. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce portable?
Exactement, alors ils nous ont pris en vidéo à notre insu. Et ensuite, ils ont envoyé les vidéos via Snapchat à des amis. Donc, j'ai pas eu le temps de les empêcher de l'envoyer. Ça s'est passé très rapidement.
Oui.
Et ensuite, les personnes qui ont reçu cette vidéo en ont fait des captures d'écran afin de conserver une photo. Et c'est cette photo qui a ensuite été publiée sur les réseaux sociaux. Donc, tout s'est passé très, très vite.
C'était sur Facebook. Et le problème, c'est que le lendemain, vous êtes retrouvés à l'école et plusieurs jeunes avaient vu cette photo, et qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là?
Oui, alors c'était pas tout à fait le lendemain, mais le lendemain, j'ai surtout été portée plainte avec mes parents, parce que je leur en ai parlé directement, ça a été mon réflexe.
Très bien.
Et quelques jours après, j'ai dû retourner à l'école, oui, et ça a été très difficile, parce que j'ai dû affronter le regard de tout le monde, je me suis sentie jugée, et c'est ça qui a été très difficile, surtout que j'étais au lycée.
Des garçons comme des filles aussi, hein, je crois.
Exactement.
C'est ça qui
Exactement,
est terrible.
Exactement, et surtout de la part des filles, justement. J'ai vraiment reçu très peu de soutien.
Et qu'est-ce qu'elles vous disaient, ces filles?
Elles m'insultaient, elles essayaient de me rabaisser, de me mettre plus bas de terre, elles essayaient de me faire comprendre que c'était ma faute, que j'avais pas eu à faire ça, que si j'avais fait les choses différemment, j'en serais pas arrivée là. Elles ont vraiment essayé de me descendre au plus bas.
Et qu'est-ce qui vous a donné le courage, comme ça, de porter plainte tout de suite et d'en parler à vos parents? Parce que c'est ça qui est difficile, souvent.
Alors moi, j'ai toujours été très proche de mes parents et je suis surtout quelqu'un qui a besoin d'extérioriser. Donc pour moi, c'était impossible de tout garder pour moi. Donc mon réflexe a été d'en parler à ma mère. Et je me suis surtout dit que si j'allais pas porter plainte maintenant, ça allait être plus compliqué d'affronter tout ça plus tard. Et j'avais surtout besoin d'aide de la police.
Et vos parents vous ont comprise, soutenue, accompagnée?
Alors ma mère, oui, parce que ça a été l'instinct maternel. Je ne vous cache pas qu'avec mon père et avec d'autres personnes de ma famille, ça a été plus difficile. Mais j'ai quand même reçu beaucoup de soutien parce que j'étais leur petite fille et ils savaient que si eux ne m'accompagnaient pas, ça allait être très difficile pour moi de m'en sortir.
Alors vous avez porté plainte et comment ça a continué cette plainte? Vous avez réussi à aller jusqu'au bout de la procédure?
Alors oui, il y a eu une première audience qui a eu lieu il y a 2 ans, soit 1 an après les faits. Et la dernière audience pour la personne qui a pris les faits, la photo au tout début, pardon, a été jugée très récemment.
Et alors, qu'est-ce que...
3 ans après, et ça y est, c'est fini.
Alors, ils ont été condamnés à quoi, ces garçons ?
Alors, ils ont été condamnés à verser des dommages et intérêts à moi, ainsi qu'à mes parents.
De combien ? Vous pouvez nous dire la somme ou pas ?
Je préférais garder ça privé,
d'accord,
ça ne vous dérange pas.
Ok, pas de problème.
Et sinon, je sais qu'ils ont eu en quelque sorte des stages pour essayer de leur expliquer pourquoi c'est mal ce qu'ils ont fait, essayer de leur faire comprendre la place de la femme dans la société, et tout ça, essayer de leur faire se remettre en question, quoi.
Est-ce que ça vous a soulagé ?
Alors, oui. Surtout la dernière audience qu'il y a eu, j'ai été vraiment soulagée parce que c'était la fin pour moi.
Oui.
C'était vraiment une page qui se tournait, surtout que ça a eu lieu 3 ans après. Je commençais vraiment à perdre espoir. Mais bon, en France, tout le monde sait que la justice est très longue.
Oui.
Donc pour moi, ils ont vraiment eu ce qu'ils méritaient. Je m'attendais à quelque chose quand même de pire pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est mal.
Mm-hmm.
Mais ils ont avoué qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Donc ça, déjà, ça m'a soulagée qu'ils reconnaissent leur tort.
Ils en ont pris conscience, en fait. Mais sur le moment, j'imagine qu'ils ont fait ça n'importe comment, mais qu'après, maintenant, ils ont conscience de leurs méfaits.
Oui. Bah, j'espère. Après, c'est ce qu'ils ont dit, mais est-ce que c'est ce qu'ils pensent vraiment ? Ça, je ne sais pas, mais...
Alexia, je crois que ça a été un moment très difficile pour vous, ces années-là, mais aujourd'hui, quelles leçons vous en tirez ? Quels conseils vous pourriez donner aux jeunes filles ?
Alors, quel conseil je pourrais donner ? J'ai appris beaucoup de cette histoire, notamment, il ne faut pas faire confiance aux autres. Il faut vraiment faire attention avant de donner sa confiance à quelqu'un. Vraiment apprendre à connaître la personne, parce que les personnes qu'on pense connaître, en fait, sont capables du pire.
Ouais.
Puis, il faut être discret aussi. C'est vrai qu'il faut pas faire ça dans un lieu où il y a d'autres personnes. Il faut vraiment rester discret, essayer de... Pas de se cacher, mais voilà.
Discrétion, de ne pas faire l'amour dans une maison où il y a une grande soirée avec plein de jeunes et avec des portables, quoi.
Voilà, mais également faire attention aux personnes, parce que moi, je pensais que c'était mes amis, et en fait, pas du tout. J'étais très mal entourée, et c'était pas forcément les bonnes fréquentations, donc faire attention. Et si jamais, par malheur, des personnes vivent la même chose que moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il faut en parler. Vraiment, il faut en parler, ça c'est la chose principale à faire, il faut extérioriser, il faut en parler à ses proches. S'ils n'ont pas forcément envie d'en parler à leurs parents, en parler, je ne sais pas, à d'autres personnes qui seraient en possibilité de les aider.
Et
il ne faut vraiment pas garder ça pour soi.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci mille fois Alexia de nous avoir fait partager ce récit qui est difficile mais qui nous donne un peu d'espoir. Je me tourne vers vous Clémence Pajot, je voulais vous demander aujourd'hui, que dit la loi ? Est-ce que ces gens qui diffusent des photos sans notre consentement sont condamnés ?
Alors, il y a deux questions en fait. Que dit la loi ? Le délit d'atteinte à la vie privée condamne le fait de conserver ou diffuser des photos à caractère intime sans le consentement. C'est-à-dire que même si elles ne sont pas diffusées mais qu'on les conserve pour menacer, ça doit être puni par la loi. Maintenant, la jurisprudence, elle est quand même assez mince puisque c'est une loi qui est récente et donc il faut encore former la police, la justice pour que cette loi soit bien appliquée. Parce que dans les faits, on s'aperçoit qu'elle n'est pas toujours suffisamment connue. Les victimes ne la connaissent pas forcément et les professionnels non plus. Donc il y a vraiment un très gros travail à faire pour qu'elle soit mieux connue, notamment... le fait de conserver ces images, encore une fois...
On n'a pas le droit de conserver des images sans consentement de l'autre.
Non, et on le voit dans le cas aussi tout à l'heure de
Camille,
c'est ça. Elle aurait tout à fait pu porter plainte, si elle l'avait souhaité,
oui.
pour le fait même d'avoir conservé ces images.
Alors, dites-moi...
Alors, peut-être juste sur l'autre cas qui a été présenté tout à l'heure, les témoignages autour de l'envoi de photos ou de vidéos à caractère pornographique.
Sur les sites de rencontres ?
Là, c'est compliqué parce que c'est de l'exhibitionnisme, clairement.
Oui. Hein,
c'est la même chose que dans la rue, se masturber ou s'exhiber dans l'espace public. Le problème, c'est que la loi ne prévoit aujourd'hui que l'exhibition dans l'espace public. Donc, le partage d'une photo ou d'une vidéo sur des réseaux fermés ou en direct n'est pas considéré comme un espace public, donc ne peut pas être condamné par la loi. Là, il y a un vide juridique.
Donc il y a un vide juridique si jamais on est une femme, qu'on est sur un site de rencontre, qu'on reçoit un sexe d'homme sans l'avoir demandé.
Exactement.
Ça, on peut
surtout
pas porter
si c'est
plainte.
Une seule fois. Si c'est répété, ça peut être considéré comme,
comme du harcèlement
sexuel. Et si la personne est mineure, en revanche, là, on peut être sur le délit d'atteinte, le délit d'atteinte sexuelle et ça peut être condamné. Mais pour une personne majeure, sur un réseau fermé, aujourd'hui, il y a clairement un vide juridique.
Et vous conseillez-vous à toutes ces jeunes filles qui sont victimes à la fois de revenge porn, de ce chantage, de porter plainte tout de suite ? Comme disait Alexia, il faut parler, il faut porter plainte ?
Alors, parler, c'est extrêmement important. Il faut rompre l'isolement parce que le premier effet, c'est l'isolement. Hein, décrit très bien le fait d'avoir perdu ses amis. C'est Eva qui disait que toute sa vie sociale, finalement, en était bouleversée. Elle s'est retrouvée totalement isolée. Donc, il faut rompre cet isolement, il faut en parler. Il faut absolument renverser le stigmate, c'est-à-dire que ce n'est pas la victime d'avoir honte, c'est vraiment l'agresseur qui a commis une infraction, un délit et qui doit être pénalisé et condamné.
On a le droit de faire des vidéos ou des photos intimes, mais on n'a pas le droit de faire du chantage avec, c'est ça que vous dites.
C'est important de le souligner. Après, la procédure judiciaire, elle est longue. Elle est pas facile pour les victimes, donc on n'a pas non plus à leur imposer. C'est vraiment un choix qui doit être fait. Mais nous, en tout cas, notre rôle, c'est de les informer sur leurs droits et d'informer aussi les auteurs ou auteurs potentiels sur ce qu'ils risquent en cas de condamnation.
Merci beaucoup, Clémence Pageot. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre Hubertine Auclair pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Île-de-France. Merci infiniment, Alexia, de nous avoir fait partager cette douloureuse expérience. Encore merci à Camille, à Eurydice, à Mélanie de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. Grâce à votre expertise et à nos témoignages, on aura compris qu'il faut poster ces états d'âme, ces photos, ces vidéos avec précaution sur Internet. Ne publiez que des photos plutôt pudiques qui ne peuvent pas se retourner contre nous. Et puis, pour éviter les commentaires désobligeants ou les remarques sexistes d'inconnus emplis de haine sur Internet, préférez les comptes privés sur les réseaux sociaux plutôt que les comptes publics ouverts à tous. N'avoir que des abonnés qu'on connaît personnellement, ça fait beaucoup de monde en moins, mais beaucoup de moins d'insultes aussi, et donc de sérénité. Et pour compléter, je vous cite deux sites Internet à consulter, Stop Cybersexisme et Je protège ma vie privée en ligne.
Europe 1.
Demain, nous parlerons d'un sujet qui nous concerne tous, les colériques, les agressifs, les hystériques. Nous avons tous dans notre entourage des personnalités compliquées avec lesquelles il faut composer. Comment entretenir de bonnes relations avec ces profils difficiles ? Nous nous poserons la question. Alors si vous avez un collègue qui vous pompe l'air ou un patron caractériel, un beau-père ou une belle-mère que vous ne supportez plus, une voisine intrusive qui se mêle beaucoup trop de vos allées et venues, ou si le nouveau copain de votre meilleur ami ne vous plaît pas, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation de cette délicate émission. Un grand merci aussi à Boris Paczynski pour la réalisation. Et merci à vous, Marlène.
Merci, Eve, pour cette heure passée avec vous.
Je vous laisse maintenant avec Karima Charny pour 2 heures de musique. Laissez-vous porter, c'est dès 16h sur Europe 1. À demain.